Maurice Leblanc, Dorothée danseuse de cordes. Chapitre 7. La date approche. Dans le pays plat où gît sous la verdure le manoir aux buttes, une gorge profonde, creusée par la rivière Lamaine, enserre comme une boucle les prairies, les vergers et les bâtiments du manoir. Des monticules, bossués de rocs et couverts de sapins, se dressent en hémicycle à l'intérieur de la propriété, et une dérivation de la Maine, coupant la boucle et isolant les buttes, a formé un gracieux étang qui reflète les pierres sombres, les briques roses et les ardoises de l'antique logis. Aujourd'hui, c'est une ferme plutôt. Une partie du rez-de-chaussée abrite des celliers et des granges, témoignage d'une exploitation plus vaste, florissante jadis, mais très déchue depuis que s'en occupait le grand-père de Raoul. Le vieux baron, comme on l'appelait, il avait droit au titre et à la particule le domaine avant la Révolution constituant la baronnie d'Avernois. Le vieux baron, grand chasseur et grand buveur, bel homme, aimant les femmes, se souciait fort peu de travailler, et son fils, le père de Raoul, avait hérité de ses habitudes insouciantes. « J'ai fait ce que j'ai pu, une fois démobilisé, confia Raoul à la jeune fille, pour remonter le courant et ramener le bien-être ici. Mais que voulez-vous ? Mon père et mon grand-père ont vécu sur cette idée, qui résulte évidemment de la légende que vous connaissez. Un jour ou l'autre, nous serons riches, alors pourquoi se gêner ? Et ils ne se sont pas gênés. Actuellement, nous sommes entre les mains d'un usurier qui a racheté toutes nos créances et je viens d'apprendre que durant mon séjour à Roboré, mon grand-père a signé un contrat de vente qui permet à cet usurier de nous mettre à la porte dans 6 semaines. C'était lui, un garçon courageux, un peu lourd d'esprit, un peu embarrassé de manière, mais de nature droite, sérieuse et réfléchie. Tout de suite, la grâce de Dorothée l'avait conquis, et malgré une timidité invincible qui lui avait toujours interdit de traduire en paroles ses sentiments les plus vifs, il ne cachait ni son admiration ni son trouble. Tout ce qu'elle ordonnait était chose accomplie. D'après ses conseils, il raconta l'agression dont son grand-père avait été victime et déposa une plainte contre inconnu. Autour de lui, il parla ouvertement de la fortune qu'il escomptait à brève échéance et des recherches entreprises pour trouver une médaille d'or dont la possession était la condition première de réussite. Enfin, sans révéler le nom exact de Dorothée, il ne dissimula pas sa parenté lointaine avec elle et les raisons qui attiraient la jeune fille au manoir. 3 jours après, Saint-Quentin, ayant exigé depuis Borgne des étapes doubles, arriva en compagnie de Castor et Pollux. Dorothée n'accepta point d'autre domicile que sa chère roulotte, laquelle fut installée au centre de la cour, et la vie recommença entre les 5 camarades, vie heureuse et nonchalante. Castor et Pollux se battaient avec moins de vigueur. Saint-Quentin pêchait dans l'étang. Le capitaine, toujours très important, avait pris sous sa garde le vieux baron et lui racontait, ainsi qu'au chien Goliath, d'interminables histoires. Quant à Dorothée, elle observait. On la sentait mystérieuse, jalouse de ses réflexions et de ses procédés. Elle passait des heures à jouer avec ses camarades ou à diriger leurs exercices. Puis, les yeux fixés sur le vieux baron, qui, accompagné de son chien fidèle, les jambes vacillantes et le regard inerte, allait s'adosser à un arbre du verger, elle épiait tout ce qui pouvait être chez lui la manifestation de l'instinct ou la survivance du passé. Plusieurs jours de suite, elle vécut dans une soupente du grenier, où il y avait quelques rayons de bibliothèque, et sur ces rayons des paperasses, des dossiers, des brochures imprimées au siècle dernier, Histoire de la région, rapports communaux, archives de paroisse. Eh bien, demandait Raoul en riant, nous avançons. J'ai l'impression que vos yeux commencent à mieux voir. Peut-être, je ne dis pas non. Ah, les yeux de Dorothée. Dans cet ensemble de jolies choses qui composaient son visage, c'était à cela surtout que l'on s'attachait. Raoul ne voyait plus qu'à travers eux et ne s'intéressait plus guère qu'à ce qu'ils exprimaient. Et peut-être Dorothée se laissait-elle contempler avec une certaine satisfaction. L'amour de ce grand garçon timide la touchait par son respect, elle qui n'avait connu jusqu'ici que l'hommage brutal de la convoitise. Un jour, elle le fit monter dans une petite barque, amarrée au bord du lac, et la laissant glisser au fil du courant, elle lui dit « Nous approchons. » « De quoi ? » fit-il tout agité. « De la date que tant de choses annoncent depuis si longtemps ? Vous croyez ? » ?»« Je crois, Raoul, que vous ne vous êtes pas trompé. Le jour où vous avez vu entre les mains du baron cette médaille d'or, dans laquelle semblent se résumer toutes les traditions de famille. Malheureusement, le pauvre homme a perdu la raison avant que vous soyez mis au courant, et le fil qui reliait le passé à l'avenir a été rompu. Alors, qu'espérez-vous si on ne retrouve pas cette médaille ? Dit-il. Nous avons cherché partout, dans sa chambre, dans ses vêtements, dans la maison, dans les vergers même, rien. Il ne se peut pas qu'il garde le mot de l'énigme, dit-elle. Si sa raison est morte, ses instincts survivent. Et quel instinct que celui qui est formé par les siècles ! Sans doute a-t-il mis la pièce à portée de sa main ou de ses yeux. À l'heure voulue, un geste inconscient nous révélera la vérité. Raoul objecta. Et si Destréché lui a pris la médaille ? Non, car alors nous n'aurions pas entendu le bruit de la lutte. Votre grand-père a résisté jusqu'au bout et c'est notre venue seule qui a mis Destréché en fuite. Ah, oh, ce bandit ! S'écria Raoul, si je le tenais ! La barque glissait doucement. Dorothée fit à voix très basse et sans bouger. « Silence, il nous écoute. »« Hein, que dites-vous ? » ?»« Je dis qu'il est là et qu'il ne perd pas une de nos paroles. » Raoul était stupéfait. « Voyons, voyons, que signifie ? Vous l'apercevez ? » ?»« Non, mais je le devine. Et lui, il nous aperçoit. »« De quel endroit ?» D'un endroit situé dans les buttes. J'ai toujours pensé que ce nom de manoir aux buttes faisait allusion à quelque retraite impénétrable. Et j'en ai découvert la preuve dans un vieux livre qui parle précisément d'une retraite où les Vendéens se terraient et que l'on place aux environs de Tiffauges et de Clisson. Mais comment la connaîtrait-il ? Rappelez-vous que le jour de l'agression, votre grand-père était seul, ou se croyait seul. Se promenant dans les buttes, il aura démasqué l'une des issues. Or, Destréché les pieds. Et depuis, le misérable se sert de ce refuge. Regardez le terrain, tout bossué et raviné. À droite, à gauche, de tous côtés, il y a place dans le roc pour des sortes d'observatoires, d'où l'on peut voir et entendre tout ce qui se passe en dessous, dans les limites du domaine. Destréché est là. Qu'y fait-il ? Il cherche, affirma-t-elle, et plus encore, il surveille mes recherches. Lui aussi, bien que je n'en puisse deviner la raison, il veut la pièce d'or, et il craint que je ne le devance. Raoul prononça. « Mais il faut avertir la police !»« Pas encore. Le terrier doit avoir plusieurs issues, dont quelques-unes peut-être, passent sous la rivière. Si on donne l'éveil aux bandits, ils s'échappent. »« Alors, votre plan ? le faire sortir de ce terrier et le prendre au piège. Et comment? Quand? Le plus tôt possible. J'ai vu l'usurier, le sieur Voirin, et il m'a montré l'acte de vente. Si le 31 juillet à 17 heures, le sieur Voirin, qui toute sa vie a désiré acquérir le manoir au but, n'a pas reçu la somme de 300 000 francs en espèces ou en titres sur l'État, le manoir lui appartiendra.
Je sais, fit Raoul, et comme il n'y a aucune raison pour qu'en un mois je devienne riche.
Si, il y a une raison, celle qui a toujours soutenu votre grand-père. Voirin, ne vous réjouissez pas, a-t-il dit. À la date du 31 juillet, je vous paierai rubis sur l'ongle. Raoul, c'est la première fois que nous sommes en face d'une précision. Jusqu'ici, des mots, une tradition confuse. Aujourd'hui, un fait. Un fait qui prouve que, d'après votre grand-père, toutes les légendes qui tournent autour de ces richesses promises aboutissent rigoureusement à un jour quelconque du mois de juillet. La barque touchait le rivage. Dorothée sauta légèrement et s'écria sans crainte d'être entendue. « Raoul, nous sommes le 27 juin. Dans quelques semaines, vous serez riche. Moi aussi. » Et Destréché sera pendu haut et court, ainsi que je le lui ai prédit. À la fin de cette même journée, la nuit commençant à tomber, la jeune fille se glissa hors du manoir et gagna furtivement un chemin bordé de haies très hautes qui la conduisit en une heure devant un petit jardin au fond duquel brillait une lumière. Les investigations particulières de Dorothée lui avaient révélé le nom d'une vieille dame, Juliette Azir, que la rumeur publique désignait comme une des anciennes amies du baron. Avant de tomber malade, le baron lui rendait encore visite, bien qu'elle fût sourde, mal portante et d'esprit un peu faible. De plus, d'après une indiscrétion de la bonne qui la servait et que Saint-Quentin avait interrogée, Juliette Azir possédait une médaille du même genre que celle que l'on cherchait au manoir. L'idée de la jeune fille était de profiter d'une absence que faisait la bonne une fois par semaine pour frapper à la porte et interroger tout droit Juliette Azir. Mais le hasard en décida autrement. La serrure n'était pas fermée à clé, et lorsque Dorothée eut franchi le seuil de la salle basse et confortable où se tenait la vieille dame, elle s'aperçut qu'elle dormait sous la lumière de sa lampe, la tête baissée sur le canevas qu'elle était en train de broder. « Si je cherchais, » pensa Dorothée, « à quoi bon lui poser des questions auxquelles elle ne répondrait sans doute pas ?» Elle regarda autour d'elle, examina les gravures accrochées au mur, la pendule sous son globe de verre, les candélabres. Plus loin, un escalier conduisait aux chambres. Elle s'y dirigeait lorsqu'un grincement se produisit du côté de la porte. Et tout de suite, bien qu'elle n'eût aucun indice, elle fut certaine que Destréché allait apparaître. Peut-être l'avait-il suivie. Peut-être l'avait-il attiré là, par un ensemble de machinations? Elle eut peur et ne songea qu'à la fuite. L'escalier, les chambres du premier, elle n'avait pas le temps. Près d'elle, il y avait une porte vitrée, sans doute celle qui menait à la cuisine, et de là, à quelque issue, par où elle pourrait se sauver. Elle entra, et aussitôt s'avisa de son erreur. C'était un cabinet obscur, un placard plutôt, contre les planches duquel il lui fallut s'aplatir pour que le battant pût être fermé. Elle se trouvait prisonnière. En même temps, très doucement, la porte principale était poussée. Deux hommes s'introduisirent avec précaution et l'un d'eux souffla au bout d'un moment. La vieille dort.
À travers les vitres que recouvrait un morceau d'étoffe déchirée, Dorothée reconnut aisément Destréché, malgré son col relevé et sa casquette, dont les ailes rabattues se nouaient au-dessous du menton. Son complice également enfouissait dans un cache-nez la moitié de son visage.
« Ce que t'en fais des bêtises pour cette donzelle ?» dit celui-ci.
« Des bêtises, non, grogna Destréché, je la surveille, voilà tout. »
« Allons donc, t'es toujours dans son ombre, t'en perds la tête,
jusqu'au jour où elle te la fera perdre pour de bon. »
« Je ne dis pas non, elle y a déjà presque réussi à roborer, mais j'ai besoin d'elle.
Pourquoi ?»«
Pour la médaille, elle seule est capable de mettre la main dessus. »
« Pas ici, en tout cas. Voilà deux fois qu'on fouille cette maison. »«
Mal, sans doute, puisque voilà qu'elle y vient, elle aussi. Quand nous l'avons aperçue, elle se dirigeait de ce côté. Elle aura eu vent du bavardage de la bonne et elle aura choisi le jour où la vieille était seule. »«
Ah, ça, tu y tiens, ta mijaurée !»«
Si j'y tiens, articula Destréché sourdement. Qu'elle me tombe entre les griffes, et je te jure que la belle ne l'oubliera pas de sitôt. »
Dorothée frémit. Il y avait dans l'accent de cet homme à la fois une haine et une violence de désir qui l'épouvantait. Il se taisait maintenant, posté derrière la porte, l'oreille aux aguets. Quelques minutes s'écoulèrent. Juliette Azyr dormait toujours, la tête de plus en plus inclinée sur son ouvrage. À la fin, Destréché murmura.
« Elle ne viendra pas. Elle aura changé d'idée en cours de route. »«
Eh bien, décampons, » proposa le complice.
« Non. »«
Tu as une idée ?»«
Une volonté. Découvrir la médaille. »«
Mais puisque deux fois déjà... »
On s'y est mal pris, il faut changer de procédé, tant pis pour la vieille.
Il frappa du poing sur la table au risque de réveiller Juliette Azyr.
Enfin quoi, c'est trop bête! La bonne l'a bien dit, il y a une médaille dans la maison, quelque chose comme on en cherche une au manoir.
Alors profitons de l'occasion, hein? Ce qui n'a pas réussi avec le baron peut réussir aujourd'hui.
Comment, tu voudrais?
La faire parler, oui, comme on a essayé de faire parler le baron.
Seulement, c'est une femme, elle.
Destréché avait enlevé sa casquette. Son visage mauvais exprimait une cruauté sauvage. Il marcha vers la porte, dont il ferma la serrure à double tour et dont il mit la clé dans sa poche. Puis il revint jusqu'au fauteuil où la bonne femme dormait, la considéra un moment, et soudain s'abattit sur elle, l'étreignit à la gorge et la renversa contre le dossier.
Le complice ricana. « T'as pas besoin de te donner tant de peine. Si tu serres trop, tu vas la tuer, la malheureuse. »
Destréché ouvrit un peu les doigts. La vieille écarquillait les yeux et gémissait faiblement.
« Parle !» ordonna Destréché. « Le baron t'a confié une médaille. Où l'as-tu mise ?»
Juliette Azyr ne comprenait pas bien ce qui lui arrivait. Elle se débattit.
Exaspérée, il la secoua. « Vas-tu bavarder, hein ? Où est la médaille, celle de ton ancien amoureux ? Il te l'a remise, hein ? Ne dis pas non, vieille carcasse, ta bonne le raconte à qui veut l'entendre. Allons, parle, sans quoi ? »
Il ramassa sur les dalles du foyer un des chenets de fer à boules de cuivre et le brandit en criant.
« 1, 2, 3, à 20, je te casse la tête !»